Radio Okapi.
Le journal Noéla Louzi Tukabambi.
Mort d'homme dans la nuit des dimanches à Oicha, territoire de Beni au nord Kivu. Un militaire effardé a tué par arme à feu 6 personnes dans des circonstances non encore élucidées. Les habitants en colère ont à leur tour tué un militaire qui était en état d'ébriété. Plus de fonds pour une meilleure conservation des forêts pour protéger la planète. C'est le plaidoyer du chef de l'État de la RDC hier à la tribune des Nations Unies à New York à l'occasion du sommet Action pour le climat. Le ministre provincial du Sud qui vous chargeait de l'intérieur est notre invité ce matin. Il a appelé hier les humanitaires à apporter de l'aide aux populations des hauts plateaux des territoires d'Ouvira, Fizi et de Mwenga. Il va s'entretenir avec Michel Tirimoni. Bonjour à tous. 7 personnes, dont 6 civils et un soldat, ont été tuées la nuit de dimanche à Oicha, chef-lieu du territoire de Beni, au nord Kivu, dans des circonstances qui demeurent encore floues. Selon le premier témoignage recueilli par Radio Okapi, les 6 civils ont été tués par un soldat incontrôlé des FRDC au quartier Tanambo. La population en colère a à son tour tué un militaire qui était en état d'ébriété. Sekombi Katondolo nous en dit plus.
C'est aux environs de 19h dimanche, sous une pluie battante, que la population d'Oicha a été surprise par des coups de balle. Tout s'est réparti d'une altercation entre un militaire incontrôlé des FARDC qui s'est introduit dans la maison d'une famille vivant au quartier Tenambo situé au nord de cette commune rurale des territoires de Beni, environ 20 km au nord de Beniville. Les militaires ont tiré à bout portant sur 6 civils, notamment 2 hommes et 4 femmes, parmi lesquelles l'épouse de l'ancien chef du quartier. 2 autres personnes sont gravement blessées dans cette fusillade, nous renseigne Janvier Kassereka de la société civile du territoire de Beni.
6 personnes tuées qui sont des civils, plus maintenant un militaire qui a été aussi étranglé par des jeunes manifestants dans la nuit d'hier quand ils étaient en train de manifester. Ils ont retrouvé militaire à gazer l'état de brûlité et commencé maintenant à l'étrangler, il est mort sur place. Ce qui fait le total de 7 personnes tuées.
Contacté, le major Mac Azoukaï, porte-parole des opérations Sokola 1, secteur Grand Nord, dit que le commandant des opérations et l'avocat général des FARDC près la cour militaire opérationnelle du Nord Kivu se sont rendus sur le lieu et les enquêtes sont en cours. Il promet de se prononcer à l'issue de ces enquêtes, tout en appelant la population au calme. Beni, c'est Kombi Katundolo, Radio Okapi.
Dans le Tanganyika, l'axe routier Kalemi-Bendera, long de 125 km, est en proie à l'insécurité. Les miliciens violentent les usagers de cette route et arrachent leurs biens. Sont indexés dans cette insécurité grandissante les groupes armés Apanapale, la milice Toa Persi 42 de Biamungu et le groupe armé Kabeke. Je vous propose d'écouter ce témoignage d'un usager de cette route. Il s'exprime sous le sceau de l'anonymat au micro de François-Xavier Mibé.
Le 14 septembre, il y a les Mai Mai qui ont fait un checkpoint sur la route numéro 5 au niveau de Konongo. Ils ont fait plus de 6 heures. Ils étaient plus de 20 éléments armés en train de prendre la population et les amener dans la brousse, les piller, les véhicules, les motos, tout ça, déshabiller même certaines populations. C'est tous les jours que les Mai Mai sont en train d'interpréter la population locale. Dans les villages Kiabalumbu, avant-hier, ils ont opéré presque toute la journée. Il y a des véhicules fousseaux qui ont été interceptés, des motos emportées dans la brousse. Et la population vraiment a des difficultés pour atterrir dans ces tronçons-là.
Comment est-ce que vous avez réussi à échapper à ces contrôles sur une voie dangereuse?
Il y a un convoi MONUSCO, on était en train de les suivre et ils étaient devant. Mais ceux qui sont venus derrière nous, de temps en temps, ils sont toujours tenus en embuscade par ces groupes armés. Il y a maintenant beaucoup de petits sous-groupes. Et le groupe de Biamungu et des 75 km de Kalemiska-Bendera, il y a un groupe Mai Mai Kabeke. Et au-delà, c'est le grand groupe Mai Mai Apanapal.
Le ministre de l'Intérieur du Tanganyika indique qu'une solution est déjà en cours avec le retour des soldats des FRDC pour assurer la protection des civils. Ces soldats viennent remplacer leurs frères d'armes qui ont été relevés de leur poste dans cette zone. En Ituri, le groupe armé dénommé Coopérative pour le Développement du Congo, CODECO, très actif dans le territoire de Djougou, a libéré dans la nuit de dimanche à hier 7 otages, parmi eux des femmes et des enfants. Selon des sources coutumières du secteur de Walendupiti, cette libération est le résultats de la campagne de sensibilisation sur la paix menée par une commission de pacification auprès des dirigeants de ce mouvement armé. La société civile du territoire de Djougou encourage cet acte qui marque, selon elle, le début de processus de paix à Djougou. Martial Kizabemongo.
Ces personnes relâchées sont arrivées à Kwandroma tard dans la nuit. Il s'agit de 5 enfants et 2 femmes, tous munis de leur fiche de libération. Selon des sources coutumières du secteur de Walindupiti, ces femmes et enfants ont été kidnappés pendant l'incursion des assaillants dans la région. Ils étaient gardés en otage par les éléments de la milice de coopérative pour le développement du Congo Kodeko dans la localité de Nyaru dans le groupement Dendo. Selon la même source, la commission de pacification pour la paix composée du chef du secteur de Walindupiti, d'un membre des Lori, regroupant la communauté hindoue, la jeunesse et les mamas, a rencontré plusieurs fois le leader du Kodeko nommé Ngudjolo dans son maquis. C'est pour négocier la libération de ses otages et son implication dans les retours de la paix en territoire de Djougou, ce qui a concouru à la libération de ses otages, indique la même source. La société civile du territoire de Djougou confirme ces informations. Son président Jules Tsouba, tout en saluant cet acte, indique que beaucoup reste à faire pour mettre fin aux tueries dans Djougou. Les porte-parole des FARDC à Ituri se réservent pour le moment de donner la position de l'armée sur ses otages. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Il est difficilement concevable que les forêts les mieux conservées au monde ne captent qu'un pour cent des financements disponibles. Propos du président Félix Tshisekedi prononcé hier au sommet Action pour le climat à New York. Le chef de l'État congolais recommande plus de mobilisation de fonds provenant des gouvernements, des organisations multilatérales, des ONG et surtout du secteur privé. Des fonds qui devraient contribuer à une meilleure conservation des forêts pour protéger la planète. Blaise Makassi.
D'après Félix Tshisekedi, la RDC s'est engagée à accélérer pour ses populations l'accès universel à l'électricité afin de sortir de la dépendance au bois qui représente plus de 90% de l'énergie consommée par les ménages. Le président Tshisekedi propose que les compensations financières sérieuses soient faites, des partenariats efficaces noués et le transfert des technologies réalisées afin de permettre d'œuvrer de manière durable et par une action renforcée pour l'atténuation, l'adaptation et la diminution de gaz à effet de serre qui provoquent le réchauffement climatique de la planète. Pour le chef de l'État congolais, les forêts du bassin du Congo constituent une part importante de la réponse à ces grands défis qui menacent la planète. Il entend accroître significativement les aires protégées sur l'ensemble du territoire afin de renforcer la préservation de la biodiversité. Dans ce contexte, et considérant les besoins et les préoccupations spécifiques des populations congolaises qui dépendent en grande partie de ces forêts, Félix Tshisekedi exhorte les partenaires à soutenir effectivement son gouvernement dans ses efforts pour la préservation de l'écosystème de la forêt du Congo.
L'ONG internationale Fonds mondial pour la nature, WWF, partage globalement les constats faits par le chef de l'État congolais. La coupe du bois industriel et artisanal est en effet l'une des causes principales de la déforestation au Congo central et dans les provinces environnant Kinshasa. C'est ce qu'a déclaré hier Floribert Boutamba Isombo, coordonnateur des projets au Fonds mondial pour la nature en RDC. Pour Floribert Boutamba, le grand problème est celui lié à la demande de l'énergie en bois toujours croissante dans la ville-province. Avec sa démographie galopante, il l'a dit au micro d'Honoré Misenga Kalala.
Le problème principal, c'est le problème d'accès à l'énergie au niveau du pays et plus précisément de la grande ville province Kinshasa qui a 12 millions d'habitants. Donc il y a un nombre de foyers qui utilisent l'énergie bois pour la cuisson, pour plusieurs besoins. Et donc cette demande est tellement importante que finalement elle fait pression sur les provinces environnantes, notamment le Congo central, le Kwango, le Kwilu, le Maïndombe, et même au-delà de ces provinces-là. Et donc, jadis, le Congo central était une province forestière avec la grande forêt de Maïndombe, qui a été décimée par l'exploitation industrielle et artisanale. Et aujourd'hui, le lambeau forestier qui reste est totalement poussé à l'extrême pour les besoins de satisfaire Kinshasa. Et en même temps aussi, si nous prenons Kwango, Kwilu, Maïndombe, elles subissent également la même pression.
Notez enfin que la réunion sur l'Amazonie organisée hier à l'ONU a permis de débloquer 500 millions de dollars supplémentaires pour l'Amazonie et les autres forêts tropicales. La Banque mondiale et la Banque interaméricaine de développement ou encore l'ONG Conservation International ont annoncé des programmes d'aide avec le soutien financier des bailleurs. Ainsi, l'Allemagne promet de donner 250 millions de dollars, la France 100 millions, l'Union européenne mettra à disposition jusqu'à 190 millions. L'objectif est de financer des projets pour la préservation de la la biodiversité, le développement d'une chaîne de valeur durable, la gestion durable des sols, la promotion des savoirs traditionnels et la coopération transfrontalière. Plus de 10 millions de personnes vivant avec handicap en RDC nécessitent d'être projetées légalement. Une matinée de plaidoyer s'est tenue à ce sujet hier au Palais du Peuple en faveur de la proposition de loi sur les personnes vivant avec handicap en RDC. Cette proposition de loi introduite l'an dernier par la députée Eve Bazaïba n'avait pas été examinée. Son auteur vient de la réintroduire pour amener le gouvernement congolais à prendre désormais en compte les personnes vivant avec handicap dans tout le processus de développement de la RDC. On écoute Eve Bazaïba au micro de Michel Kifindangoy.
J'ai pris donc la prudence d'introduire la dite loi qui du reste a déjà été sanctionnée positivement par le gouvernement, la législature passée. Je crois que nous allons bénéficier d'une certaine mesure d'urgence pour l'adopter, soit que le 3 décembre de cette année, la Journée internationale des droits des personnes handicapées, ça soit plutôt une commémoration de célébrer la promulgation, aussi la vulgarisation doit commencer de cette loi. Par exemple, ici au Palais du Peuple, l'accès est totalement difficile. Si ça soit systématique dans tout ce que nous entreprenons au niveau public et privé qu'on tienne compte de la donne des personnes vivant avec handicap. Nous avons 10 500 000 personnes vivant avec handicap en République démocratique du Congo. C'est le Congo Brazza, toute la population du pays multipliée par deux. C'est pour montrer la dimension, l'ampleur de la ressource humaine que notre gouvernement a le devoir et l'obligation de renforcer les capacités et d'intégrer dans les programmes et politiques de développement.
L'invité.
Les autorités provinciales du Sud Kivu appellent les humanitaires à apporter de l'aide aux populations de haut plateau des territoires d'Ouvira, Fizi et de Mwenga. Le ministre provincial de l'Intérieur du Sud Kivu a fait cet appel hier lundi au cours d'une réunion tenue au bureau de la MONUSCO à Bukavu. Luabandji Luasingabo estime que la situation sécuritaire et humanitaire dans ces zones nécessite une réponse urgente des autorités mais aussi de la communauté humanitaire. Le ministre provincial du Sud Kivu chargé de l'Intérieur est notre invité ce matin. Il est interrogé par Michel Chirimoni.
Monsieur le ministre, bonjour. Vous venez de prendre une rencontre ici avec la MONUSCO. Cette réunion portait sur la crise de ce qui se passe dans le plateau du Vira, Fizi, Minembwe et Mwenga. Quelle est la situation actuelle à votre avis?
Au niveau des hauts plateaux et moyens, la situation s'était dégradée sensiblement il y a une dizaine de jours. Au niveau national et provincial, nous avons pris les contacts qu'il fallait et le déploiement des FRDC a été effectué et la situation se stabilise sur terrain. Et c'est dans ce cadre que la semaine passée, j'ai pris contact avec la MONUSCO, le PAM, le HCR, l'UNICEF pour voir ensemble ce qui pouvait être fait de telle sorte que l'intervention militaire ne reste pas seule. Il fallait que cette intervention militaire soit accompagnée par la stabilisation de la population. Et laquelle stabilisation nécessite la sécurisation. Comme vous le savez, les enfants qui allaient à l'école ont perdu leur fourniture. Il y a au moins 3 villages qui ont été brûlés. Il fallait donc que ces enfants, dont les parents ont perdu beaucoup de moyens, et de fournitures. Et c'est ça qui explique la présence de l'UNICEF, mais également des médicaments pour les centres médicaux. Voilà, sinon, pour répondre à votre question, la situation est en cours de stabilisation et nous envoyons là-bas une délégation d'une vingtaine de personnes qui vont aller sensibiliser les différentes communautés. C'est un groupe qui est constitué d'originaires de 5 communautés principales qui sont là-bas, les Babembe, les Bavira, les Bafulero, les Banyendu et les Banyamulenge. Ils vont les sensibiliser sur la nécessité du vivre ensemble.
Ok, la réunion ici a connu la MONUSCO d'abord, mais il y a aussi les représentants des humanitaires. Quel message vouliez adresser à leur
C'est assez clair. Je leur ai dit que la situation qui prévaut là-bas n'est plus une urgence. C'est plus qu'une urgence. Et que c'est pendant les moments difficiles qu'on reconnaît ses amis. Je leur ai demandé de ne pas trop s'arrêter aux formalités. Parce qu'on vous parle des délais de 3 mois, 4 mois, 2 fois. Alors moi je dis, si c'est pour aider quelqu'un qui est en urgence, 3-4 mois, vous allez venir aider les tombes, parce que les gens seront morts. Alors je leur ai dit de voir ce qui peut être fait dans l'immédiat, que les gens voient qu'il y a quelque chose qui est déjà en train d'être fait. Le reste pourra se faire dans le cadre du programme normal. C'était ça le message, qu'il nous aide tout de suite à stabiliser la situation là-bas.
Vous avez décrit la situation, est-ce que vous pouvez nous résumer les actions d'abord humanitaires et ensuite sécuritaires, les actions principales qui doivent être menées?
Les actions humanitaires, il y a d'abord les vivres. Il faut aider cette population. Et là, je suis content, je suis heureux de vous informer qu'il m'a été dit que le PAM s'est déjà déployé et que d'ici peu, la distribution va commencer dans la région. Puisque vous aimez trop parler de Minembwe et vous fragilisez Minembwe en le faisant tel que vous le faites. Minembwe, c'est un centre. Il y a Kipupu, il y a Kembe. Il y a beaucoup d'endroits où les besoins sont les mêmes. Et à force de ne parler que d'un seul endroit, les soupçonneux se mettent à dire des choses qui ne sont pas une réalité. Alors, sur le plan humanitaire toujours, il y a les centres de santé qui ont été pillés, qui ont été abîmés, qui sont sous-équipés. Et là aussi, nous avons demandé que l'on voie ce qui peut être fait. Et là, l'UNICEF nous a dit qu'elle va déjà appuyer quelques zones de santé rapidement. Oui. Alors, côté militaire, il y a des problèmes d'équipement, des problèmes de divers ordres dont nous allons nous occuper au niveau du gouvernement. Merci également.
Voilà, c'est la fin de ce journal, la première grande édition de ce matin. Merci à vous tous qui l'avez suivi.